France Culture.
France Culture présente, dans la série Toute une vie, Saul Bass, l'illustre inconnu du cinéma. Avec Pat Kirkham, Jan Christopher Orak, Rafik Djoumi, Florence Deiga et Olivier Kuncel, et Saul Bass avec la voix de Daniel Kenningsberg. Un documentaire d'Alexandre Villaume-Tilski, réalisé par François Teste.
Pour moi, Saul Bass, c'est d'abord l'apparition dans ma vie des arts graphiques, je dirais, puisque ça a été le générique de La mort aux trousses quand j'étais gamin, qui m'a éveillé à la possibilité de traficoter les génériques pour en faire des choses. Parce que je connaissais les dessins animés au début des Panthères Roses, etc. Mais c'était la première fois que je voyais un vrai travail graphique sur le lettrage. Et par la suite, il y a eu Psychose, hein, qui abondait dans ce sens. Et le jour où j'ai découvert que beaucoup des affiches et des génériques qui m'avaient marqué étaient du même homme, là, j'ai réalisé que j'avais affaire à un auteur, au sens plein du terme. Et donc, Saul Bass, pour moi, ça représente une certaine forme de réalisation cinématographique.
Pour moi, Saul Bass, c'est, pour être un poète du langage visuel, c'est quelqu'un qui fait partie de ces gens qui ont pas forcément l'emploi des mots pour raconter des choses ou pour faire susciter des émotions, mais qui font appel à des images, à du dessin, à de la couleur, à de la composition et à du mouvement.
Saul Bass, son nom ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, les génériques de L'homme au bras d'or, Sueur froide, Psychose, Les nerfs à vif et Casino, c'est lui. Les affiches des films d'Otto Preminger, c'est lui. Les logos de Kleenex, AT&T, Minolta et de la United Airlines, c'est encore lui. Considéré comme un des plus grands artistes américains du XXe siècle par Martin Scorsese et Steven Spielberg, Saul Bass fut aussi un cinéaste en avance sur son temps, et peut-être le secret le mieux gardé d'Hollywood.
Saul est né en 1920 dans l'est du Bronx à New York, ville qui réunissait alors la plus grande communauté juive dans le monde, dont un tiers dans le Bronx.
Pat Kirkham, biographe.
La plupart étaient des familles de la classe ouvrière, principalement immigrées. Saul parlait souvent de la chaleur de son foyer familial. Et il avait une grande sœur dont il était très proche. Une des choses qu'on m'a racontées et qui m'a impressionnée, c'est comment sa mère, chaque jour, rendait les choses du quotidien amusantes et intéressantes. C'était une maison pleine de joie. Ses parents étaient originaires d'Europe de l'Est. Saul disait près d'Odessa, mais c'était en fait à plus de 500 km d'Odessa. Ils ont émigré à New York en 1907.
Le Bronx dans les années 30 était très à gauche politiquement. Les temps étaient durs et il régnait beaucoup d'injustices chez nous comme à l'étranger. On soutenait le New Deal de Roosevelt, mais on admirait aussi ceux qui se battaient en Espagne. On s'opposait au fascisme qui sévissait en Italie et en Allemagne. Nous lisions tous Marx et Freud. On cherchait des clés pour le plein emploi, mais aussi pour comprendre les origines du fascisme et du racisme. Des clés pour comprendre la psyché humaine.
Jan Christopher Orak, vous avez publié un excellent et très riche essai consacré à l'œuvre de Saul Bass. Comment on pourrait définir les tout débuts de Saul Bass et le contexte social dans lequel il a grandi?
Saul Bass was born in New York. He attended high school in New York in the Bronx.
Saul Bass est né à New York. Il va au lycée dans le Bronx, obtient son diplôme à 15 ans. Et intéressé par les arts, il commence à travailler de suite dans le design publicitaire.
Je le décris volontiers comme un autodidacte, car il n'est pas formé académiquement en graphisme. Durant ses 10 années comme jeune employé dans des agences de publicité pour les journaux et les films, il suit malgré tout des cours libres en design. D'abord avec Howard Trafton, dans une école d'art de New York, puis un cours ou deux avec Georgi Kepes, artiste du Bauhaus, immigré de Berlin et enseignant au Brooklyn College. Le jeune Bass est alors influencé par au moins 2 livres. Un signé Laszlo Moholy Nagy, Vision in Motion, et l'autre par Georgi Kepes, Language of Vision. Les images contenues dans ces ouvrages, plus encore que les textes eux-mêmes autour des théories de la Gestalt, inspirent Solbass.
Mon premier souvenir artistique, c'est quand mon père m'a offert une boîte de 49 crayons de couleurs différents. Je les ai usés chacun jusqu'au bout, et il a fallu me racheter plusieurs boîtes par la suite. Je n'arrêtais plus. Mon père, lui, dessinait des fleurs, des oiseaux et des arbres. Ensuite, il les pliait et les découpait, et quand il les redépliait, ça devenait un tout autre monde. J'adorais ça. Mais j'ai réellement découvert ma vocation quand j'ai vu l'oncle d'un copain d'école peindre des façades pour annoncer la sortie des nouveaux films. Je n'en revenais pas qu'on puisse vivre de son art. J'ai décidé aussitôt que c'est ce que je voulais faire plus tard. En 1936, j'ai intégré la classe de design de Howard Trafton, qui m'a fait comprendre la nécessité de savoir dessiner, mais aussi le pouvoir de la couleur et de la composition. J'y ai découvert Cézanne, Picasso, les sculptures africaines et les maîtres de la Renaissance, l'importance de la perspective, de la forme et des espaces négatifs.
He was Jewish, and we have to remember that in the 30s and 40s, while the film industry was heavily Jewish.
Et rappelez-vous que dans les années 30 et 40, si les Juifs travaillent beaucoup dans le cinéma, peu encore officient au sein du design américain. L'esthétique commerciale a longtemps été dominée par les WASP, les protestants blancs anglo-saxons. Après la Deuxième Guerre mondiale, Bass quitte New York, qui fut le cœur de l'industrie du design. Il emménage sur la côte ouest, bien plus ouverte. Là-bas, des graphistes juifs, eux aussi influencés par le Bauhaus, commencent à dominer le design américain et l'esthétique plus moderne des années 50.
That 1950s design created. That was possible.
Cela est rendu possible grâce à l'esthétique du Bauhaus, qui dès les années 1920 gomme les frontières entre l'art noble et l'art populaire. Une des caractéristiques du Bauhaus est de ne pas seulement théoriser le design, mais d'apporter des solutions pratiques à celui-ci. Cette approche conviendra parfaitement à l'esthétique des entreprises capitalistes.
Bud Kerkham, la rencontre entre Elaine et Solbass, comment ça s'est passé, ce couple qui est mythique, qui a travaillé, qui a vécu ensemble des décennies, comment ça a commencé?
Au début de leur histoire ensemble, Saul avait besoin d'une assistante et Elaine, sa future femme, s'est présentée sans savoir qui il était. Son nom ne lui disait rien. Elle travaillait alors chez Capitol Records. Elaine était la cadette d'une famille d'immigrés hongrois très mélomanes. Elaine est le genre de personne qui vous donne envie d'être le meilleur de vous-même. Elle est vraiment à part. Saul disait qu'il l'avait engagée aussitôt, mais ce n'était pas le cas. Il a su immédiatement qu'elle serait l'amour de sa vie et il fallait donc qu'il réfléchisse bien avant de l'embaucher.
Avec ma femme, Elaine, c'est une collaboration totale. Nous faisons tout ensemble. Elle est remarquable. Que voulez-vous que je vous dise ? J'aime cette femme. Je l'aime pour sa personnalité et je l'aime pour ce qu'elle est capable de faire. Quand votre épouse est talentueuse, intelligente et sensible, vous êtes chanceux à plus d'un titre. Je suis dans la situation extraordinaire où ma vie privée et ma vie professionnelle sont si denses que je ne fais pas de distinction entre les deux. Mon épouse et nos enfants se sont engagés dans mon travail et cela a créé un lien merveilleux entre nous.
Pat Kerkham, qu'est-ce que Elaine a apporté à l'œuvre et à la vie de Saul Bass? Elaine était très musicienne, mais était aussi une excellente dessinatrice. Quelle a été sa contribution?
Au bout d'un moment, en étant aussi mari et femme et si complémentaires, Saul et Elaine en arrivaient à finir la phrase de l'autre. Un peu comme Charlie Ray Eames et les couples qui sont habitués à vivre et travailler ensemble pendant longtemps. Si, au départ, Elaine s'occupait de l'administratif, elle s'impliqua ensuite de plus en plus et finit par travailler avec lui sur la création des génériques et la plupart des courts-métrages.
Sénateur McCarthy.
One communist on the faculty of one university is one communist too many. One communist among the American advisors at Yalta was one communist too many.
Ian Christopher Orak, le McCarthyisme qui a sévi dans les années où Saul Bass a travaillé, est-ce que ça a eu une influence sur son travail? Est-ce qu'il en a été victime ou pas? Comment ça s'est passé?
Saul Bass was not directly affected by the blacklist.
Saul Bass n'a pas été affecté directement par les listes noires, même si en 1950, on est en plein McCarthyisme. Bass travaille comme graphiste pour les studios californiens, campagnes publicitaires, affiches, etc. Mais quand il commence à réaliser des génériques de films, il le fait pour des producteurs et réalisateurs indépendants du système hollywoodien. Le plus important pour Saul Bass, ce n'est donc pas le McCarthyisme, mais plutôt l'effondrement de l'hégémonie des grands studios. Ça a commencé avec le décret contre la Paramount en 1948, qui force en effet les majors à se délester de leur monopole sur les salles de cinéma. Elles ne peuvent plus vendre des films par paquet, mais désormais film par film. Saul Bass est ainsi le candidat idéal pour habiller chaque film en essayant de le différencier du reste du marché à travers ses idées graphiques. Il est engagé par Otto Preminger, Billy Wilder et Alfred Hitchcock pour concevoir un design visuel à chaque fois unique, à la fois pour le film, l'affiche et les encarts promotionnels. And the advertising campaign.
Saul Bass, donc des affiches de films, des génériques, mais ça sert à quoi un générique, Rafik Djoumi, un générique de film en particulier à Hollywood, ça sert à quoi?
Ben, pour paraphraser Saul Bass lui-même, je dirais qu'un générique, c'est une ouverture d'opéra. C'est un résumé condensé du spectacle qu'on s'apprête à voir. Et je pense que c'est une mise en condition du spectateur, mais une mise en condition qui se fait avec sa pleine participation. Ça, c'est important aussi chez Saul Bass, c'est que le spectateur n'est pas juste en train de regarder des belles images qui défilent. Il est obligé de se questionner sur ce qu'il est en train de voir. Quand on regarde les noms un peu défigurés de l'ouverture de l'Homme Obrador, par exemple, on se demande pourquoi sont-ils ainsi brisés. Et on le comprend lorsqu'on voit le bras se briser lui-même, en se disant « Ah oui, c'est un film qui va nous parler de la fêlure, de la brisure intérieure de ce personnage. » Donc, on se synchronise en fait à l'œuvre qui s'apprête à commencer.
Un générique peut définir l'ambiance et le cœur de l'histoire d'un film, l'exprimer de manière métaphorique. Il peut donner un avant-goût de ce qui est à venir et créer une atmosphère qui permettra au film de commencer à un plus haut niveau d'harmonie émotionnelle avec le public. De nos jours, la conception du générique a changé. Il est envisagé comme une sorte de divertissement et non comme une partie intégrante du film. Les réalisateurs croient beaucoup moins à l'efficacité d'un générique. Les génériques deviennent décoratifs. Si je me réfère au passé, j'ai beaucoup aimé les génériques de Maurice Binder et Robert Brown John sur les James Bond.
Avant Saul Bass, on était peut-être plus dans une ouverture de music-hall. Il y avait des efforts de titrage dans les génériques des années 30 et 40, avec souvent des grandes fanfares musicales de Max Steiner, Miklos Rosa et compagnie, mais c'était quand même du music-hall. C'était attention, le spectacle commence. Avec Saul Bass, on rentre dans les années 50, on est dans l'après-guerre, on est dans une période un peu plus cérébrale dans le cinéma américain, et les films auxquels il va participer sont éminemment cérébraux, hein, pour la plupart. Voilà, Anatomie d'un meurtre, on peut pas dire que ce soit un film d'exploitation. Et donc, du coup, qui dit cérébral dit prenez le temps de réfléchir à ce que vous voyez. Et je pense que toutes ces années dans le monde de la publicité, cette idée de résumer en une virgule et en une image très simple des concepts parfois compliqués, etc., ça l'a beaucoup aidé à encapsuler. J'aime bien ce mot. Vraiment, pour moi, Saul Bass, il encapsule. Je sais plus, je crois que c'est Pileggi, le scénariste de Scorsese, qui disait « Vous lisez pendant des mois un ouvrage de 400 pages pour tenter de le ramener à un scénario de 150 et lorsque vous voyez le film, vous réalisez que Hélène et Saul Bass l'ont ramené à 2 minutes. Et ça, c'est, pour moi, ça résume un petit peu le talent très très spécifique de Saul Bass et de son épouse.
Bass was always very good at
Bass n'est pas seulement à l'aise pour communiquer ses idées, il est doué aussi pour convaincre ses clients que ce que lui propose est exactement ce que eux recherchent. Par exemple, Otto Preminger, connu pour être très autoritaire et avoir des idées très arrêtées, détaillait à Bass ce qu'il devait faire. Mais quand il revenait le voir, il découvrait qu'aucune de ses indications n'avait été prise en compte. Bass lui répondait alors, « J'ai essayé tes idées, mais comme ça ne fonctionnait pas vraiment, j'ai fait plutôt comme ça, ce qui est vraiment au fond ce que tu voulais. »
Saul Bass avait des opinions tranchées et audacieuses. Mais leur fille, Jennifer, me disait que Hélène était plus douce, avec une manière merveilleusement posée d'exprimer ses points de vue, tout en sachant les défendre. Saul, lui, aimait plus le débat et la confrontation. Et au final, cette différence d'attitude produisait quelque chose de meilleur. Face à Otto Preminger, Saul un jour était si furieux contre lui qu'il jeta son téléphone à travers la fenêtre à cause de l'entêtement du cinéaste. Mais Saul disait que les cinéastes qu'il préférait, même quand c'était difficile, étaient ceux qui connaissaient le graphisme. C'était le cas de Preminger, Hitchcock et Billy Wilder.
C'était quoi les outils à la disposition de Saul Bass dans les années 40, 50, 60, Olivier Kenzel?
Je pense que c'était le papier, bien sûr, une caméra, des copy-proofs, enfin des systèmes de reproduction, de typographie pour pouvoir déformer. Je crois qu'il utilisait beaucoup les déformations, soit de typo, soit de dessin, soit certains génériques où il filmait, il reprojetait sur un mur. Il y avait une espèce de laboratoire, quoi, en fait, l'idée de laboratoire. Ça, c'est, je pense que c'était quelque chose d'important. Il faisait pas tout le temps la même chose. C'était pas une chapelle. Il y avait des bases solides, et à partir de ces bases solides, à chaque sujet, ils inventaient un peu une écriture. Enfin, c'était pas aussi sophistiqué que ce à quoi on a accès aujourd'hui avec les computers. Mais du coup, ça avait plus d'enjeux aussi. Il fallait plus savoir ce qu'on allait faire, je présume.
Saul Bass, Rafik Djoumi travaillait avec Elaine, sa femme, sur la plupart de ses génériques, jusqu'à la fin. Comment étaient fabriqués les films Elaine Saul Bass, enfin les génériques, oui, le lapsus, film générique, c'était quasiment des mini-films, leur générique. La fabrication, ça marchait comment?
C'est vraiment du from scratch, c'est-à-dire, en gros, ils ont expliquer le concept au réalisateur, au producteur, et on le laisse tranquille pendant plusieurs semaines. Ils vont dans leur coin, dans leur petit atelier, et ils font leur film. Donc quand on voit celui de Welcome to the White Side avec le chat, c'est le chat des époux Bass qui est filmé. Alors j'imagine qu'ils ont dû faire quelques aménagements pour pouvoir faire ce beau travelling. Peut-être que c'est dans leur garage ou dans leur jardin, je ne sais pas. Voilà, et pareil pour Spartacus, donc qui a été filmé par Hélène. Tout ça, c'est vraiment eux qui gèrent de A à Z un générique qui va être livré clé en main. Mais bien sûr, on sait bien mis d'accord avant. Il y a des storyboards en pagaille. Alors ça aussi, c'est très important chez Bass, parce qu'il faut quand même, le storyboard, c'est pas quelque chose qui a été utilisé à fond dans le cinéma américain dans les années 60 et 70.
C'est quoi le storyboard?
Le storyboard, c'est une forme de bande dessinée du film plan par plan. C'est quelque chose dont on a fini par comprendre que c'était extrêmement utile à une époque pour pouvoir communiquer efficacement avec tous les départements. Tout le monde comprend avec une image de quoi il est question, alors que parfois, quand on explique, c'est pas si évident pour tout le monde. Du coup, voilà, c'est une forme de BD de ce qu'on va voir.
J'aime le processus du montage, son rituel et le sentiment d'artisanat qu'il procure. Mettre la pellicule, la faire avancer, l'arrêter, revenir en arrière, regarder... Un peu comme certaines personnes aiment travailler le bois. J'aime construire quelque chose à partir de nombreuses parties séparées. Comme une mosaïque, elles finissent toujours par s'emboîter pour former un tout. Ce travail est un terrain de jeu. Et l'humour est un merveilleux médium pour les idées. Ça ouvre des avenues vers les autres en les aidant à ouvrir leur esprit.
En fait, je me rappelle que, étrangement, j'ai vu Saul Bass quand j'étais aux Arts Appliqués, donc dans les débuts des années 80, qui était passé à la Cinémathèque française, qui avait présenté des génériques. Et j'ai des souvenirs plutôt de quelqu'un d'assez chaleureux qui racontait des anecdotes, en particulier sur un générique qui m'a marqué, c'est « Walk on the Wild Side ». L'histoire du chat noir et du chat blanc, et raconter effectivement que ce chat, ils avaient une caméra travelling et ce chat qu'ils attendaient en sortie du tuyau n'était pas au rendez-vous, il s'arrêtait au milieu et c'était assez amusant. Et voilà, j'ai souvenir de quelque chose, une façon de voir le métier graphique de manière très vivante, comme une aventure et pas quelque chose, quelqu'un sur un bureau devant une feuille blanche à tâcheronner, quoi. C'était vivant.
Thank you.
Lorsque vous évoquez le travail de Saul Bass, Rafik Djoumi, vous parlez de ce supplément d'âme, quasiment même de l'ordre du psychanalytique, en l'occurrence sur les condensations qu'il propose dans les affiches et dans les génériques. Il a lu Freud, on le sait, il y a cette dimension chez Bass. Est-ce qu'il y a pour vous une image que vous emportez d'un générique ou d'un de ces films où là vous vous dites il y a quelque chose de troublant, d'ambigu, il parlait beaucoup d'ambiguïté dans ses déclarations, Bass, qui fait que Bass reste et restera un artiste unique dans l'histoire du cinéma américain?
Ça me serait difficile de choisir un exemple sur une carrière aussi pléthorique, un exemple qui puisse résumer les autres. En fait, j'aurais toujours l'impression de faire une injustice. Il est évident que vu en salle, dans une copie neuve, comme ça a été mon cas, le générique d'ouverture de Vertigo, c'est surnaturel. On n'a jamais approché à ce point justement ce vertige recherché par Hitchcock, et pour le coup un vertige purement psychanalytique, que dans ce générique-là. C'est absolument extraordinaire. Voilà, je ne peux pas mettre de côté celui de Spartacus, qui est encore une fois, je trouve, un vrai chef-d'œuvre de co-réalisation. Et puisqu'on parle de co-réalisation, il ne faut pas oublier non plus qu'à plusieurs reprises, Saul Bass a été un co-réalisateur, puisque c'est quand même lui qui a storyboardé et en partie tourné la fameuse séquence de douche de Psychose, qui au fond lui ressemble. C'est-à-dire que quand on réalise que c'est lui qui l'a faite, on se dit mais évidemment, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Ça ressemble tellement à du Saul Bass. Cette idée de nous montrer la totalité sans jamais nous la montrer, puisqu'on a la sensation de voir ce corps nu alors qu'on ne le verra pas, tellement il a été découpé justement de façon soigneuse et quasi mathématique, un peu à la façon de l'affiche d'Anatomie d'un meurtre, c'est du pur Saul Bass. Il a collaboré avec Frankenheimer à certaines séquences du film Grand Prix, et c'était pas n'importe quoi.
Il a storyboardé West Side Story, il a storyboardé Spartacus, et scène
tourné,
de bataille.
Il a tourné l'épilogue de West Side Story aussi, qui nous montre les fameux graffitis sur les murs. Donc oui, c'était vraiment quelqu'un qui, au fil de sa carrière, je pense que les réalisateurs de l'époque ont commencé à le reconnaître comme un de leurs pairs, vraiment, au sens propre du terme. Mais ce n'est, je pense, qu'à la toute fin de sa carrière, et bien sûr après sa mort, qu'il ait été reconnu par tous comme étant un cinéaste avant tout. Et du coup, ça, c'est peut-être ce qu'il faut retenir de la carrière de Saul Bass, c'est qu'il a été engagé d'une certaine manière pour faire la devanture du spectacle, l'affiche, celui qui aile les passants sur le trottoir. Mais en réalité, les artistes qui font les spectacles, qui font les films, l'ont reconnu comme un des leurs.
Le duo Kenzel et Dega, c'est une signature quand même au fil des années. Et on peut dire que vous êtes des auteurs du cinégraphisme. C'est quoi la signature, Saul Bass? C'est une ligne, c'est des couleurs particulières, des combinaisons particulières? Florence Dega.
Moi, de ce que je vois, il me semble que la signature de Saul Bass avec Elaine Bass et avec son équipe, en tout cas... Je trouve, moi, j'y vois quelque chose de très axé sur une sorte de minimalisme. Je trouve que les choses sont souvent dépouillées. Il y a souvent une idée forte. Il ne s'éparpille pas. Voilà. Donc, à chaque fois, c'est resserré sur une idée. Il tourne autour d'un principe, de quelque chose, une répétition. Alors, parfois, ça paraît même très long sur la durée du générique. Mais en fait, ça nous met dans un état d'hypnose. Et je trouve qu'il est fort pour hypnotiser, en fait, le spectateur. Je pense au générique de Psychose, que j'aime beaucoup, pour plusieurs raisons. Quand je parlais de minimalisme, c'est fond noir et puis des lignes blanches, des lignes très droites qui viennent cisailler l'écran et cisailler aussi la typo qui donne l'impression d'avoir des coups de ciseaux qui viennent la fracasser, etc. Donc ça amène déjà l'ambiance un peu schizo-angoissante du film, sans rien dévoiler. Et du coup... C'est tout le temps le même procédé, c'est-à-dire que pendant, je ne sais pas combien ça dure, peut-être une minute ou plus, on a en permanence ces lignes qui arrivent de gauche, de droite, mais avec un rythme, un effet de surprise, parfois de saccade. C'est des petites variations, très, très subtiles, mais qui amènent toute l'émotion. Et à chaque fois, ce n'est que ça. Et alors au début, on dit « ouais, intelligent », etc. Puis On se dit, est-ce qu'il va développer et nous emmener ailleurs ? Non, mais il reste là. Et en fait, c'est très bien parce qu'on est très oppressé à la fin. Donc c'est bien réfléchi.
Une police démembrée, déstructurée, avec cette musique de Bernard Herrmann, 1960, un noir et blanc terrible.
Il est évident que la carrière de Bass, elle s'est faite en pleine et parfaite collaboration avec les compositeurs. Je pense aussi que les compositeurs eux-mêmes étaient stimulés par le générique proposé. Et c'est vrai qu'il a eu droit à des grands noms. Donc évidemment Bernard Herrmann sur les Hitchcock, dont le plus magnifique, je pense, c'est effectivement le générique de Vertigo, où de concert, la musique et l'image nous accompagnent justement dans cette fameuse boucle, puisque la musique d'Herrmann, en fait, elle dessine cette spirale que le générique de basse nous reproduit et dans laquelle il nous entraîne, il nous hypnotise. Les coups de violon acérés de Psychose correspondent aux lignes qui viennent déchirer l'écran, mais on a une autre collaboration avec un compositeur que moi je trouve exemplaire, c'est celle avec Elmer Bernstein. Je crois qu'un de mes génériques préféré de Saul Bass, c'est celui de La Rue Chaude, le film, le thriller d'Edouard Mitrick, qui nous montre un chat en train d'une sorte de chat de gouttière qui est voilà très félin, qui marche au ralenti dans ce qu'on imagine être un quartier malfamé, avant de tomber sur un autre chat et qu'un combat s'engage. Et la musique de Bernstein, c'est un jazz langoureux, hyper sexy, très très riche, qui contraste avec cette image un peu sale, on va dire, mais aussi magnifiquement filmé. C'est un très très beau travelling. Alors là, pour le coup, c'est le genre de générique, vraiment, dans les années 50, j'imagine, le spectateur voit ça. Je pense qu'il est beaucoup plus sulfureux que le film qui s'apprête à démarrer, puisque c'est l'histoire d'une prostituée, en fait, Welcome to the White Side. Mais je trouve que ce générique est d'une modernité exceptionnelle.
Si vous ne prenez pas de risques à chaque projet, votre réservoir créatif s'assèche et vous finissez par échouer. Permettez-vous de laisser un accident se produire, de laisser le subconscient émerger avec des solutions que d'habitude vous n'employez jamais. Je dirais même, d'une certaine manière, que la persévérance est plus importante que l'imagination. On entend beaucoup parler de la joie de créer, mais on ne reconnaît pas assez l'angoisse et l'anxiété qui vont avec. Bien sûr, le plaisir peut être très intense. Mais c'est surtout le jeu entre ce plaisir et l'anxiété qui rend la dynamique de l'expérience créative si irrésistible.
Rafik Djoumi, le générique des années 50-60, c'est aussi Maurice Binder. Maurice Binder qui a travaillé notamment avec Stanley Donen pour les James Bond. Pour vous, c'est quoi la différence entre Maurice Binder et Saul Bass ?
Je pense qu'il y a quelque chose de plus autorisant quelque part chez Saul Bass, qui cherche plus à encapsuler le récit. Là où chez Maurice Binder, on est peut-être, c'est méchant de dire les choses comme ça, mais peut-être dans le coup de coude au spectateur. C'est-à-dire que quand on va voir un James Bond, on y va pour l'exotisme et pour les belles filles, en sachant que la censure ne nous permettra pas d'en voir trop. Et d'une certaine façon, le générique de Binder, il est là pour nous dire, bon, on sait pourquoi tu es venu au fond. Donc je peux au moins te les montrer en silhouette. Voilà, il y a quelque chose d'un petit peu malin chez Binder. Saul Bass, c'est voilà le sentiment qui va prédominer dans le film que vous allez voir. Le travail de Saul Bass, c'est un travail qui vous invite à participer.
Bass a recours à l'abstraction moderniste et aux possibilités des couleurs. Par exemple, les carrés non figuratifs chers à Paul Klee se transforment chez Bass dans le générique de 7 ans de réflexion de Wilder en 1955 ou dans l'affiche du film Sainte-Jeanne en 1957 avec sa mosaïque de couleurs en deux dimensions. Même avec ses génériques, Bass aime travailler l'aplat, sans effet de relief, avec un quadrillage strict de lignes horizontales et verticales pour construire ses visions.
to create his designs.
Rafik Djoumi, vous parlez de Saul Bass en tant qu'auteur à part entière, bien qu'il ait travaillé au cœur de l'industrie, et je pense même de l'industrie au sens large, puisqu'il a réalisé un certain nombre de logos industriels extrêmement connus. Un mot sur ces logos ?
Toi, tout étui, Kleenex, c'est doux comme une caresse.
Mais parmi les logos que nous connaissons en France, bien sûr, de Saul Bass, parce que là, d'autres que les Américains connaissent bien, je pense à Exxon, par exemple, que nous, on connaît pas du tout. Nous, celui qu'on connaît le plus, c'est, je pense, c'est celui de Kleenex. Mais on a également Geffen, qui apparaissait souvent sur nos disques et dans les génériques de certains films, Warner, le générique des années 70 notamment. Je sais plus qui avait fait remarquer qu'effectivement, Saul Bass vous poursuivait partout toute la journée, c'est-à-dire entre les affiches de métro qu'il avait conçues, les logos sur la pochette de vos Kleenex et le film que vous alliez voir avec vos amis. En fait, à chaque fois, c'était lui qui était là.
Yann Christopher Orag, diriez-vous qu'il y a une signature, un lien graphique ou symbolique entre les différents logos industriels qu'a créé Saul Bass à travers les années?
Yes, there is a definite link and they are all...
Oui, il y a clairement un lien entre les divers logos conçus par Bass, que j'appelle la marque Saul Bass. Ces logotypes sont instantanément reconnaissables. D'abord parce qu'ils sont particulièrement simples. Il y a souvent uniquement une ou deux couleurs. Ils transforment les choses réelles en abstractions visuelles qui les rendent instantanément reconnaissables. Et on voit aujourd'hui des campagnes publicitaires pour des films tournés en numérique avec des génériques très influencés par Saul Bass en termes d'abstraction et dans la manière de communiquer les informations.
Florence Deiga et Olivier Kenzel, est-ce qu'il y a des logos fixes de Saul Bass qui vous entraînent ?
Alors, il y a le logo de United Airlines qui réussit à mettre du mouvement dans un objet fixe. Parce que, d'abord, c'est United Airlines. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des lignes unies, donc enfin, moi j'y vois des lignes qui sont unies entre elles, puisqu'il s'agit juste de l'élan d'une ligne tracée un peu comme un U, et répétée plusieurs fois, mise côte à côte, et en plus légèrement penchée, comme si elles étaient emportées dans le mouvement du départ déjà. Donc c'est quelques petits signes, mais voilà, je trouve qu'il y a des mouvements.
Crossing the ocean will never be the same. United's new international first and business class. United. It's time to fly.
Il travaillait pour des marques très célèbres, qui sont très chargées pour nous, des grands noms. C'est là qu'on voit aussi qu'il y a son écriture qui est forte. Il donne un bout de lui-même à une marque pour la renforcer, sans être servile, en réalité. Je ne sais pas comment il faisait, je pense qu'il avait énormément de charisme ou de sens de persuasion pour arriver à faire son travail et que les gens se disent « oui, c'est moi ». Mais en fait, c'est les marques. Les marques, souvent, me disent « ben non, j'ai déjà mes anciens, mon univers, il faut faire de l'adaptation ». Ben non, il n'adaptait pas, il faisait du Saul Bass.
Faire qu'une vieille idée semble nouvelle est presque aussi important que produire une idée neuve. Et c'est souvent aussi difficile à faire. Parfois, quand une idée jaillit, vous la remettez en question parce qu'elle paraît trop évidente. Pourtant, assez souvent, cette idée simple se révèle être la meilleure de toutes. J'ai toujours cherché l'idée la plus simple depuis les années 50. Et c'est ce que je fais aujourd'hui encore avec Hélène. Nous cherchons un concept simple, mais provocateur, frappant. Pour ne pas être ennuyeuse, cette simplicité doit être ambiguë et avoir des résonances, une implication métaphysique.
Est-ce qu'un logo signé Bass est une œuvre d'art ?
Déjà, c'est signé. C'est ça qui est incroyable aussi.
Moi, je pense que oui,
c'est
vraiment.
C'est signé. C'est revendiqué, signé. Enfin, il n'y a pas de doute que c'est comme un tableau. Enfin, il n'y a pas de différence fondamentale entre quelqu'un à qui on a confié un Christ en croix pour une église et quelqu'un à qui on a confié un générique. Enfin, il a eu ce sujet-là, il a fait son morceau, son rétable, sa pièce, et il la signe. C'est pas anecdotique, en fait.
Je trouve que ça fait écho à ce que tu disais, qu'il a travaillé sans servilité. Et je pense que c'est là la clé. C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose avec ses convictions à lui. Et enfin, je trouve que quand on voit son travail, on peut le regarder isolément du reste. C'est vrai qu'on peut regarder tous les génériques sans forcément regarder les films, et on en ressort avec quelque chose. De même pour les logos, finalement, le logo seul, en dehors des produits, juste sur un fond blanc, c'est puissant.
Rafik Djoumi, Hélène et Solbass terminent leur carrière en travaillant pour Martin Scorsese. Vous pourriez nous décrire les génériques qu'ils ont réalisés pour ce cinéaste ?
Alors, il y a bien sûr le générique des Affranchis, qui est leur première collaboration, mais celui qui, moi, m'avait marqué à l'époque, hein, c'était celui de Cape Fear.
Cape Fear,
les nerfs à vif en français, qui ressemblerait presque de loin à du Maurice Binder, par l'usage de couleurs très psychédéliques, etc. Mais ce qui le différencie de Binder, c'est l'ambiance malaisante et macabre qu'il pose. Cape Fear, il faut pas oublier que le film, quand il sort aux États-Unis, c'est pas entre guillemets un Scorsese, c'est un blockbuster, hein, pour le grand public américain. Et ce générique, il est déjà en train de leur dire attention, il va y avoir autre chose. Vous êtes venu voir un thriller, bien sûr qu'il va vous faire peur, où il y aura de l'action, mais il va y avoir quelque chose de très très malaisant. Et donc ces déformations d'images, ces silhouettes dont on n'arrive pas à savoir exactement ce qu'elles sont censées signifier, etc. Et aussi, pareil, ce lettrage très étrange, tout ça nous met dans un état un peu liquide qui nous met en garde et qui, du coup, encore une fois, nous permet de nous synchroniser au film qui va démarrer. Sur le temps de l'innocence, bien sûr, le récit est évidemment tout autre, et donc ça nous donne un générique d'une élégance stupéfiante, hein, qui est vraiment dans le digne héritage des Michael Powell, Emmerich Pressburger, les Chaussons Rouges et compagnie, quoi.
Qu'est-ce qu'on voit dans ce générique
On voit des fleurs qui s'ouvrent. En fait, ce que les personnages ne vont pas s'autoriser pendant le film, d'une certaine manière.
Hélène Solbass propose une ouverture où donc, des roses s'ouvrent. Il y a une surimpression sur l'image. Décrire ça. Et pourquoi symboliquement c'est futé?
Il y a cette idée de délicatesse, mais derrière l'éclosion de la rose, il y a aussi l'idée, bien sûr, de la sexualité. Et là, en l'occurrence, d'une sexualité réprimée par cette dentelle qui vient la recouvrir élégamment. On va avoir un film qui va nous parler de gens qui sont horriblement sexuellement frustrés et de leur lutte, en fait, avec les convenances de leur époque et comment ils vont devoir faire taire cette passion qui les anime. Et qu'en fait, tout ce qu'on a vu dans le générique d'ouverture, qui est un potentiel, il pourrait se laisser éclore ainsi, on n'y aura pas droit durant le film. Mais encore une fois, c'est une mise en condition importante du spectateur. Il sait à partir de là comment il doit lire le film qui va commencer.
Ce en quoi il est fort, c'est qu'il peut passer de l'affiche au générique. Dans une seule image, les choses s'adaptent. Et d'ailleurs, même pour Carmen Jones, c'est juste une rose dessinée qui est en feu, en fait, qui brûle, et ça synthétise totalement le film, ce personnage de Carmen qui est en feu. Et par rapport à la musique, ça fonctionne très bien quand on l'anime. En image fixe, ça fonctionne très bien. Ça peut être une affiche, et en un seul signe qui synthétise tout, on peut figurer quel est le film, en réalité, sans en dire trop.
Tu peux rajouter quelque chose sur Carmen Jones? Moi, ce qui me frappe, dans ce que te donc parle Olivier, c'est-à-dire l'affiche et le générique de Carmen Jones qui sont très proches avec les mêmes ingrédients, mais pas tout à fait. Et c'est ça que je trouve intéressant. Dans l'affiche, la rose est dessinée de manière extrêmement stylisée. Ce n'est pas du tout une rose réaliste, c'est plutôt un symbole graphique. Et les flammes qui l'entourent sont également de la même main graphique, donc c'est dessiné. Et ça a une force et c'est très élégant, très beau. En revanche, je me suis dit, tiens, pourquoi il n'a pas gardé ce graphisme, y compris dans le générique, puisque dans le générique, on voit une flamme naturelle filmée d'un vrai feu qui vient se superposer et s'ajouter au dessin qui, lui, est resté très sobre. Et je me dis qu'en fait, il a sans doute eu bien raison, parce que s'il avait peut-être fait une flamme dessinée, ça aurait été joli, mais peut-être un peu trop cute, un peu enfantin, et ça aurait manqué de vie angoissante, enfin de la peur de la flamme. Et donc, de passer par cette vraie flamme, ça rajoute sans doute ce qu'il voulait, ce qu'il cherchait, c'était cette espèce de truc poignant, un peu effrayant, quoi, voilà, incendie. Et en revanche, le dessin d'une vraie flamme réaliste n'aurait eu aucun intérêt sur l'affiche. Voilà, c'est ça qui m'a intéressée. Je me disais, c'est marrant, il presse ses idées comme on presserait un citron jusqu'à aller jusqu'à l'amertume, quoi. Donc il y a un jus formidable, mais il y a quand même cette amertume qui joue son rôle, c'est très important.
Il y a une affiche qui m'avait alerté quand j'étais gamin parce que je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. En plus, c'est un film que j'étais pas autorisé à regarder. C'est celle d'Anatomie d'un meurtre, dans lequel on a cette espèce de corps humain dessiné de façon très crue, mais qui semble avoir été rapiécé. Le dessin l'a découpé pour le recomposer. Et en fait, c'est une façon, d'une certaine manière, encore une fois, de nous annoncer ce qui va être le propos du film. C'est-à-dire, c'est une enquête, en fait. C'est un film de procès, et c'est un film de procès dans lequel on va devoir parler de choses, pour l'époque, très taboues, qui ont trait à la sexualité et au corps. Donc, voilà, cacher ce sein que je ne saurais voir. Et donc, on a tout découpé en morceaux pour tenter de le recomposer de façon très médicale. Et ça, c'est très, très bien résumé dans l'impact immédiat de cette affiche. C'est une sensation que j'ai ressentie, mais une sensation complexe.
Yann Christopher Roach, les films réalisés par Saul Bass sont peut-être moins connus des cinéphiles, puisque ce sont des courts-métrages, moyens et un long-métrage à travers les décennies. Est-ce qu'il y a un film que vous conseillez dans la filmographie du cinéaste Saul Bass?
I would have to say it has to be Why Man Creates, which
mon film favori de Bass, c'est Why Man Creates, en 1968, qui gagne un Oscar bien mérité. C'est son film le plus complexe et le plus moderne, dans le sens où il ne répond pas à la question « Pourquoi l'être humain crée ?». C'est davantage un film-essai, dans l'esprit d'un Chris Marker. Il pose continuellement des questions. Dans 7 ou 8 séquences, on réfléchit et on tourne autour de toutes ces questions sans qu'il nous apporte de réponse. Ces questions ne sont pas formulées avec des mots, mais essentiellement avec des images et des montages. C'est un film moderne, car il force les spectateurs à construire le film par eux-mêmes. Il n'y a pas de vraie réponse comme on peut en avoir dans les récits hollywoodiens classiques qui vous disent plusieurs fois ce que le film signifie. Bass ne donne pas de sens prédigéré à son film. Il vous laisse la possibilité de penser par vous-même à propos du film, de l'art de la création, et formuler vos propres conclusions sur les éléments concrets qu'il vous présente.
Phase 4 de Saul Bass, c'est son seul et unique long métrage, Rafik Djoumi. Phase 4 aujourd'hui, c'est comment le percevoir, ce film de... D'ailleurs, comment on pourrait le définir, ce film, un pitch rapide de Phase 4?
Alors, le pitch rapide de Phase 4, c'est que c'est un film qui nous raconte, entre guillemets, une forme d'apocalypse de l'humanité qui se voit possiblement remplacée par les fourmis. Mais c'est très très mal résumé le film, qui a un pied dans le cinéma d'exploitation, c'est un film apocalyptique, mais qui a aussi un pied dans le conte philosophique, puisque c'est un film dans lequel la sympathie du récit va manifestement aux fourmis et beaucoup moins aux humains. Mais c'est aussi, un film qui répond à beaucoup des préoccupations à la fois sociologiques, politiques et artistiques qui ont porté la carrière de Saul Bass. Puisque, c'est quelqu'un qui a toujours été extrêmement libéral, qui a décidé de travailler avec Stanley Kramer parce que Stanley Kramer faisait des films sociaux très engagés. Vraiment, c'est le démocrate à l'ancienne, typique, Saul Bass. Il est toujours du bon côté de la morale américaine. Il a milité contre le Vietnam, etc. Bon, alors, pour l'anecdote, le film devait s'appeler Phase 2, sauf que comme le programme économique de Nixon se faisait appeler également Phase 2, il a décidé de le remplacer par Phase 4. On se dirait, il est hors de question que je nomme mon film de la même façon que ce salaud de Nixon. Manque de bol, la production du film a pris tellement de temps qu'en fait, le film est sorti alors que le programme de Nixon en était à la phase 4. Donc, ça a fini par le rattraper. Mais c'est voilà, il se posait quand même pas mal de questions sur le devenir de l'humanité. Il était évidemment écolo. Et tout ça, ce sont des thèmes qui sont évoqué dans Phase 4. Les humains du film sont évidemment, chaque individu représente une portion de l'humanité et porte en lui tous nos angles morts et toutes nos faiblesses, entre celui qui veut absolument détruire les fourmis, celui qui cherche à communiquer avec elles de façon mathématique, la femme qui décide de s'abandonner à cet avenir potentiel, etc. Et enfin, ces fourmis dont on ne sait pas exactement ce qu'elles pensent, mais auquel le film oblige notre regard. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de séquences du film qui ne mettent en scène que les fourmis.
Solbass a été un précurseur dans l'audiovisuel concerné par les questions environnementales. Vous auriez des exemples de cet engagement de Solbass?
Yes, in 1979, he made a film called Solar Film.
Oui, en 1979, Bass réalise Solar Film, qui est un film qui promeut l'énergie solaire et parle des avancées permettant de transformer les rayons du soleil en énergie électrique. C'est un film en avance sur son temps, car il faudra attendre au moins 30 ans encore aux États-Unis, ça a été plus rapide en Europe, pour se mettre réellement à cette production d'énergie qui ne nuit pas à l'environnement comme le font, hélas, le charbon et le pétrole.
Materials like coal and oil did. Looking at the film now from a 30-year.
En revoyant ce film aujourd'hui, plus de 35 ans après, on ne peut que regretter que cette promesse ne se soit pas vraiment concrétisée. Malheureusement, on a même régressé sur cette question à cause d'un président qui essaie de détruire la nature en redéployant l'industrie des énergies fossiles. Il n'a aucune conscience environnementale et taxe même désormais les productions d'énergie plus respectueuses de la planète.
On a l'impression, Rafik Djoumi, qu'il y a quelque chose de « small is beautiful » avec Solbass, intéressé par les fourmis, intéressé par les formats courts comme les génériques. Alors, « Small is beautiful », qui est ce fameux livre de Schumacher dans les années 70, on a l'impression que c'est un peu sa philosophie aussi. Ces courts-métrages à Solbass, que le grand public ne connaît pas forcément très bien, pourriez nous en parler, notamment, je pense, à Solar Film ou même Quest.
Moi, ceux que je connais, ce sont des films institutionnels qui ont été présentés à l'Expo Universelle de New York et qui portaient sur le devenir de l'humanité. Il y avait ça, il y avait aussi un truc qu'il avait fait pour une compagnie aérienne qui nous montrait, bah, en gros, hein, qui résumait un voyage. Moi, ce que je trouvais intéressant avec Solbass, c'est que pour lui, technologie est rimée avec narration. On utilise une technique parce qu'elle nous raconte quelque chose. Et par exemple, dans ce court-métrage sur, je crois que c'était pour la Lufthansa, le format du film s'adapte au voyage. Il s'était débrouillé avec les techniciens pour que le film passe progressivement en scope avec le rideau qui s'ouvrait à la même vitesse que le film pour nous faire comprendre que le voyage nous permettait de voir le monde de façon beaucoup plus large que lorsqu'on était sur la piste de décollage au début, etc. Il a toujours manipulé différents types de films dans ses génériques. Il a été un des premiers aussi à s'intéresser à l'image électronique, il faut pas l'oublier. Le générique de Vertigo, c'est quasiment un début hein, de l'image électronique au cinéma. Et d'ailleurs, Phase 4, à l'origine, devait se terminer par 4 minutes d'un montage d'images multiples nous donnant un aperçu de l'après, en fait, hein, de ce qu'allait advenir. Et il avait approché des infographistes à l'époque pour réutiliser leurs travaux. Donc ça n'a pas pu se faire et c'est dommage parce que ça aurait été la première inclusion d'images de synthèse dans un film hollywoodien.
Kirkham, qu'est-ce qui fait que Solbass, selon vous, est unique en son genre, unique par rapport à ses contemporains. Je pense à Maurice Binder, qui a réalisé les génériques de James Bond à la même période. Qu'est-ce qui fait que Saul Bass est unique en tant qu'artiste visuel ?
Saul Bass, c'est une haute qualité graphique à laquelle s'ajoute une haute compréhension du langage cinématographique, plus un esprit très fertile, avec la capacité de rendre visible toutes sortes d'idées et de pensées. Il avait aussi une excellente relation de travail avec son bras droit, Art Goodman, et une équipe talentueuse au sein de son agence. Mais je ne sais pas s'il aurait aimé le terme « unique ».
George Lucas a été un assistant de Saul Bass. Vous parlez de la séquence, de la fameuse séquence de douche dans Psychose, qui a fait la notoriété d'Hitchcock, mais en réalité c'était le storyboard, le découpage technique visuel de Saul Bass. On peut dire que c'était un visionnaire, Saul Bass ?
C'était très clairement un visionnaire, Saul Bass, et je pense que c'est quelqu'un dont l'œuvre se perpétue, puisque on peut pas mettre de côté tous ceux qui justement s'intéressent à la technologie et l'utilisent de façon narrative. Aujourd'hui, je pense à des James Cameron, je pense à des Robert Zemeckis, etc. Ils sont les héritiers aussi de Saul Bass, c'est-à-dire quand même d'une grande exigence graphique, artistique, mais qui tente systématiquement de se mettre à niveau de ce que la technologie permet. Et aussi, je pense que c'est important, Saul Bass avait un problème à être considéré comme un artiste. Enfin, il s'est un peu débattu avec ce terme-là. C'est quand même un enfant du Bronx. Il s'est toujours reconnu comme un artiste populaire. Et c'est tout. Voilà, il a travaillé sans aucun problème dans le marketing, dans la pub, etc. Parce que ça touchait le plus grand nombre. Donc, bah, pareil, ces cinéastes que j'ai cités, dont on peut considérer qu'ils ont perpétué son œuvre par certains côtés, bah, en fait, ce sont aussi des gens qui essayent d'atteindre le plus grand nombre, mais surtout d'élever le spectacle proposé au plus grand nombre.
Enfant, je lisais de la science-fiction. Je me passionnais pour les civilisations anciennes, dont l'Atlantide. Je passais mon temps au musée d'histoire naturelle de New York. Adulte, je suis devenu collectionneur d'art précolombien et amérindien. Soit j'ai été archéologue dans une vie antérieure, soit je le serai dans ma prochaine réincarnation, car je voue une véritable passion à l'archéologie. Je ne suis pas seulement intéressé par le passé, mais par le passé vraiment très très lointain. Ce qui me fascine, c'est le mystère et le côté irréel de tout ce passé. La culture la plus intrigante, c'est souvent celle dont on ne connaît pas tout. Elle laisse des trous qui peuvent être habités par nos fantasmes et notre imagination.
C'était Saul Bass, l'illustre inconnu du cinéma. Avec Pat Kerkam, autrice du livre Saul Bass, édition Lawrence King, Ian Christopher Horak, auteur du livre Saul Bass, autopsie du design cinématographique, édition Les Presses du Réel, Rafik Djoumi, journaliste à Arrêt sur Image, Capture Mag et Total Tracks, Florence Deiga et Olivier Kunzel, cinégraphistes et fondateurs de l'agence A The Dog. Avec les voix de Thierry Beauchamp, Anne de Pefeyou et Daniel Konitzberg. Remerciements Dara Asken. Prise de son Éric Boissé, Mathieu Leroux. Chargé de programme Sandrine Chaperon. Coordination Emmanuel Laurentin. Un documentaire d'Alexandre Vuillaume-Tilski réalisé par François Test.